J'avoue que pour nous, pour Claire-Lise et moi, c'est une grande émotion d'être là parmi vous aujourd'hui. Il faut dire que ça nous rappelle le beau temps qu'on a vécu avec vous, le bonheur qu'on a eu à partager notre vie avec vous tous. Nous nous sommes sentis beaucoup aimés et nous vous avons aussi aimés et ça reste une réalité. Et puis, je dois dire que d'emblée, en pensant à cette journée, j'ai eu à cœur de méditer avec vous le récit du chemin d'Emmaüs. Qu'un Emmaüs ? N'allez pas croire que c'est parce qu'il y a des liens historiques avec cette école. Je m'y suis formé, j'ai été directeur. Même Daniela s'est formée dans cette école. Non, c'est pas pour cela que j'ai choisi ce texte. C'est parce qu'il nous présente d'une manière unique, d'une manière très pratique, comment Jésus lui-même à pratiquer le ministère pastoral. Peut-être qu'on a à revoir un peu ce que l'on met derrière le mot pastoral. Pastoral vient du mot berger, c'est-à-dire que c'est avoir une attitude de berger à l'égard des gens, des personnes. Et cette attitude-là, elle n'est pas réservée aux pasteurs. C'est une attitude à laquelle nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à avoir cette attitude pastorale, comme d'ailleurs tout à l'heure nous l'a répété et rappelé le maire de votre communauté, de votre village. Effectivement, nous avons à manifester cet amour du Christ autour de nous dans toutes les situations. Alors, je dois dire, j'ai cherché à voir où serait le modèle pastoral dans le Nouveau Testament. On a beau chercher, le seul modèle et celui qui apparaît d'une manière très nette, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui le souverain berger. C'est lui qui a dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est donc le modèle par excellence pour nous tous. Pour toi, Daniela, aujourd'hui, comme il l'est pour chacun des membres de la communauté et pour les responsables. Alors, on va lire ensemble ce texte. J'invite mon épouse à s'approcher. J'ai trouvé que c'était bien qu'elle puisse aussi prendre une part dans la lecture ce matin. Et je vous invite, en écoutant ce récit, à prêter attention au fait qu'il y a différentes démarches que Jésus fait et qui sont de type pastoral. Essayez de les repérer, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, nous lisons ensemble ce texte. Je vais essayer de suivre ma femme ou elle de me suivre, on verra comment ça se passe. Merci chérie, tu viens ici pour le micro.
Je veux quand même dire que moi aussi je vous aime beaucoup. Je ne veux pas dire tout ce que je pense, mais vous êtes sur mon cœur. Alors voilà, je fais la lecture, je me limite.
Voilà. Alors, on t'écoute.
Alors c'est dans Luc 24, le verset 13.
Tu peux lire là si tu veux, ou bien
c'est petit.
Dans ta Bible.
Mm-hmm.
D'accord.
Ah, je peux enlever le masque, c'est vrai. Merci. Ouf, c'est vrai. Quel bonheur. J'ai de toute façon une forte voix, vous m'aurez entendu, mais c'est plus à l'aise. Le jour de la résurrection, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent les rattristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi nous qui séjourne à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? Quoi donc ? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Alors, les deux disciples racontèrent à leur tour tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te demandons que même si on connaît bien ce récit, tu l'illumines pour nous et en même temps que tu ouvres nos cœurs à ton esprit. Aide Marc aussi à expliquer ce que tu lui as mis sur le cœur. Mais nous sommes devant toi, assoiffés de ta grâce, de ton amour, et d'écouter une parole pour chacun de nous, et tout spécialement pour Daniela. Merci de cette belle journée. Amen.
Amen. Merci, ma chérie. Voilà, j'ai essayé de suivre. Je n'ai pas réussi 100%, mais ça va bien. Merci, ma chérie. Voilà, alors, comme je vous l'ai dit, nous allons observer ce texte et voir comment Jésus a manifesté ses différentes dimensions pastorales. D'abord, lisons ce verset 15. « Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux. » Jésus s'approcha d'eux. C'est quand même incroyable. Dieu a tout fait pour s'approcher de nous en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ met en œuvre cette dimension d'amour en allant à la rencontre de ces deux personnes qui sont en route vers Emmaüs, une douzaine de kilomètres, 3 heures de marche, et ils sont en train de ruminer, discuter ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils sont au courant de son décès, mais ils ne croient pas vraiment à sa résurrection. Et je crois qu'il y a là une dimension très importante, une dimension pastorale que nous devons prendre à cœur, celle qui consiste à s'approcher des autres, à faire un bout de chemin pour les rencontrer, aller vers ceux vers qui Dieu nous a envoyés. Et en fait, c'est tout un chemin, ça ne va pas de soi. Même, j'avoue personnellement que je suis un petit peu étonné de la liberté que Jésus a prise. Voilà deux personnes, on ne sait pas si c'est un couple ou non, mais qui sont en route, qui sont en train de discuter dans la tristesse, et Jésus a cette liberté de les rencontrer. Ça ne va pas de soi. Vous savez vous-même comment ce n'est pas évident de rencontrer un groupe constitué de gens qui sont ensemble, unis, aller à leur rencontre. eh bien, c'est une tâche qui doit être faite par nous tous, mais qui appartient aussi au pasteur. Et je suis heureux pour toi, Daniela, que tu aies eu dans cette année le temps de rencontrer beaucoup de gens, d'aller à leur rencontre. Et il y a une deuxième dimension qui est très proche. Il est dit que Jésus fit route avec eux. Jésus ne se contente pas d'une rencontre superficielle, demander comment ça va, etc. Non, il s'intéresse à ce qui se passe entre eux. Il va plus en profondeur. Et c'est une question que Jésus va leur poser tout à l'heure. Et il va prendre le temps de marcher avec eux, le temps de faire connaissance, prendre du temps pour faire route avec ceux qui nous sont confiés. Ce n'est pas évident parce qu'il faut d'une part que les personnes acceptent bien qu'on fasse route avec eux, et puis d'autre part, il faut qu'on ait la disposition intérieure. Quand j'étais professeur à Emmaüs, je disais aux étudiants, si vous n'avez pas le don de la relation, vous avez un meilleur temps de planter des choux que d'exercer un ministère pastoral. Parce que c'est vrai, il y a cette importance d'accompagner les personnes dans ce qu'elles vivent, dans leur joie, dans leur peine. Et là, il y a aussi une adaptation culturelle à faire. Hein. Ça ne va pas de soi. On vient d'une région, on rencontre des gens d'une autre région, et c'est vrai que chaque région, notre vallée, a ses habitudes, ses manières de sentir les choses, ses traditions, sa culture, tout simplement. Et voilà que celui qui vient comme pasteur doit s'adapter à un autre milieu qu'il a connu, quoi qu'étant né à Neuchâtel, elle est assez proche. Mais je peux vous dire avoir vécu des moments qui n'étaient pas tout simples personnellement dans cette dimension-là. J'étais pendant un temps pasteur à Paris et ça m'avait frappé que finalement Paris, Jura, on est aussi directs les uns que les autres. Mais après coup, je suis arrivé à Morges et là, c'était tout différent. Les Vaudois sont beaucoup plus lents, beaucoup plus réservés. Ils n'aiment pas qu'on les comprenne trop vite. Ils disent ni oui ni non, bien au contraire. Voilà que le jurassien vient, puis pouf, il doit apprendre à tenir compte de cette différence de culture. Et je crois que c'est vrai aussi pour vous tous, pour Daniela, votre pasteur qui doit s'adapter à vous, à vos habitudes régionales, d'église, etc. Et puis l'inverse, vous aussi, à elle. Oui, il y a un chemin à faire ensemble. Et puis, si l'on continue, on remarque que Jésus prend le soin non seulement de les accompagner, mais de les écouter. Et on sait combien l'écoute est fondamentale. Il leur pose une question pour les aider à s'exprimer. De quoi discutiez-vous en chemin ? Drôle de question, hein, s'il y en a qui sait de quoi il est question, c'est lui. Mais voilà que l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » Drôle de question, vous êtes bien d'accord. Et Jésus de répondre « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « S'il en a un qui est au courant, c'est lui. » Et on aurait eu, nous l'attendons, « Mais vous me posez une question, mais c'est à moi de vous répondre. » Eh bien non, ben non. Jésus leur donne l'occasion de s'exprimer. Il veut les entendre. Il veut entendre leur opinion, leur ressenti, alors qu'il est parfaitement informé. Et je dois vous avouer que parfois ma femme m'a dit « Tu parles trop vite. Tu ferais mieux de faire semblant de rien. » Alors on vient avec notre connaissance, nos préjugés, nos idées, et puis on a déjà les réponses. Alors que Jésus, lui, sait se taire, sait écouter, et il leur donne effectivement l'occasion d'exprimer ce qu'ils ont au fond du cœur. Et c'est une démarche fondamentale que nous devons tous faire les uns à l'égard des autres, et que le pasteur... peut-être encore plus que les autres, doit pratiquer. Ce n'est pas évident que de donner à chacun l'occasion de s'exprimer Et vous le comprenez, après tout cela, ils sont enfin prêts à recevoir un enseignement. J'allais dire, l'apéritif est servi. Et je pense que c'est important qu'on ne se contente pas de l'apéritif. Et c'est un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Jésus va se donner la peine d'ouvrir la parole de Dieu. Et même l'essentiel de tout ce qu'il partage avec eux sur ce chemin, après cette mise en appétit, l'essentiel c'est le partage des Écritures. Alors Jésus est-il dit, leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse, ça veut dire les cinq premiers livres, le Pentateuque, et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Oui, Jésus prend ce soin d'ouvrir les Écritures. Et je dois dire que dans l'ambiance actuelle, ça ne va pas de soi. Aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur les démarches psychologiques, la cure d'âme dans l'Église. On met l'accent là-dessus comme si c'était l'essentiel. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Et nous sommes dans un monde pour qui l'essentiel, c'est finalement ce que je pense, ce que je ressens. On est tous invités finalement à vivre en harmonie avec soi. T'as envie de faire ça, fais-le. T'as pas envie, fais-le. Il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux, comme il te plaît. Nous sommes dans un monde individualiste, chacun pour soi. Et voilà que nous sommes invités à nous mettre à l'écoute d'une autre parole, de la parole de Dieu, qui vient nous interpeller, qui vient nous mettre en marche. Et ça ne va pas de soi, et c'est un ministère important, central quand même, malgré tout ce que je viens de dire. C'est vrai, le partage de la parole de Dieu est indispensable. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'à un certain moment, Jésus ayant pris le temps d'ouvrir les Écritures, de parler de lui comme il en est question dans l'Ancien Testament, comme il en est question dans la Loi, dans les prophètes, il montre qu'il est question de lui dans tous les livres, eh bien, entre-temps, il arrive près de la maison où ils doivent aller et ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retiennent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Jésus prend le soin, à un certain moment, de les inviter à se positionner. Il a fait semblant de continuer, il n'attendait qu'une chose, c'est qu'on lui dise « Reste avec nous. » Et je pense que cette démarche-là, qui invite à une prise de position personnelle, n'est pas facile à poser. Mais je crois qu'il est juste que dans l'Église, on ait encore de la place pour l'appel de Dieu, cet appel personnel qui nous est adressé pour prendre position, pour se situer par rapport à Jésus-Christ. Il serait dangereux de tout simplement laisser aller les choses et de renoncer à cette démarche plus personnelle. On a un peu tendance finement à se laisser couler dans un moule, que ce soit celui de la société, de l'Église, et on oublie parfois qu'il y a une responsabilité qui nous revient individuellement, et Jésus nous invite à prendre position. Il faut que dans nos églises, l'appel du Seigneur retentisse et que nos cœurs soient prêts à le recevoir. Et certainement que si Daniela est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un appel intérieur, mais aussi un appel venu de votre part. Et cet appel, il continue à retentir pour chacun de nous. Encore un autre point. Pendant qu'ils lisent la parole, on voit que quelque chose se passe en eux. Ils vont le dire, mais ce n'est pas encore suffisant. Écoutez, alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ici, il y a plus qui se passe. Il a ouvert les Écritures et maintenant, c'est leur cœur qui doit s'ouvrir. C'est assez proche de l'appel dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais là, il y a cette œuvre surnaturelle de la puissance du Saint-Esprit qui est une puissance de révélation. Et je crois qu'on doit mettre l'accent sur cette dimension-là. Nul ne peut connaître Dieu que s'il s'est fait connaître à lui. Il faut que nos cœurs s'ouvrent par l'intervention du Saint-Esprit. Et tout le ministère pastoral, tout le ministère d'une église, quel, aussi bon soit-il, s'il n'est pas accompagné de l'action de l'Esprit, ça n'a pas de sens. Parce que c'est cette intervention de l'Esprit qui communique la vie. Et c'est à partir de là que ces deux disciples vont enfin comprendre qui est celui qui est en face d'eux. Et ils vont devenir ses témoins. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillent par ses paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent tout ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Oui, cette expérience de la rencontre du Christ ressuscité, a transformé leur vie, dynamisé leur vie, et ils sont devenus ses témoins. Et c'est au fond le but que nous avons dans tout ce que l'Église a comme mission, c'est de faire de nous tous des disciples, de ceux qui, à leur tour, témoignent du Christ et de sa résurrection. Alors, voilà pour ce qui est la somme de tout ce qui devrait être fait en tant que pasteur. C'est tout cela dont il est question quand on parle de pastoral. Alors, peut-être que Daniela pourrait dire, mais dis donc, ça suffit, hein ? Est-ce que je dois porter tout ça ? Et à tout ça s'ajoute encore le rôle pastoral à l'égard des différents groupes d'âge de l'Église, des différents groupes sociaux, que ce soit pour l'enfance, que ce soit pour la jeunesse, le catéchisme, les couples, les familles, les aînés, etc. C'est vrai qu'on a entendu pendant un temps les pasteurs se plaindre et dire « mais c'est impossible de faire tout ça ». Et ce serait une erreur de votre part d'attendre que Daniela, parce qu'elle est nommée pasteur au milieu de vous, parce qu'elle est soutenue financièrement, ait à elle seule accomplir ce ministère si vaste. Non, qui est suffisant pour ces choses? J'allais dire personne. Cette responsabilité pastorale dont j'ai parlé dépasse et de loin ce que peut accomplir à lui seul le pasteur, c'est sûr que non. Il lui faudrait beaucoup plus de temps, il faudrait le double de temps, pas 100%, pas 200, peut-être même 300% pour faire ça. Il lui faudrait toutes les compétences pour répondre à ses besoins. Non, ce n'est pas ainsi que parlent les choses l'Écriture. Le Nouveau Testament nous parle d'un ministère pastoral collégial. C'est-à-dire, je me répète un peu, c'est le ministère qui nous est confié à tous, qui est confié d'une manière toute spéciale, bien sûr, aux pasteurs et aux responsables, dont l'Église, et c'est important qu'on en prenne bien conscience. J'ai fait ce petit dessin, ou copié ce petit dessin, vous voyez, un peu comme un puzzle. Le ministère pastoral est un ministère collégial, selon les Écritures. Et ce qui me permet de dire les choses suivantes. Dans sa grande diversité, ce ministère est confié à un groupe. On pourrait dire à toute l'Église, mais d'une manière plus particulière, par exemple au collège pastoral. Et cela met bien en évidence la pluralité des ministères. Il y a le pasteur, il y a les autres. Et puis la complémentarité des ministères. Le pasteur y occupe bien sûr une place importante. Je ne dis pas qu'on la met dans un petit coin. Ça serait très mal faire. Elle a une place importante dans ce sens qu'on l'a dit. Elle est salariée, elle a à 70%, si j'ai compris. Puis je peux bien que ça déborde. Et puis, il y a sa formation, son expérience, ses compétences, tout ça fait qu'elle occupe une place conséquente. Mais elle n'est heureusement pas seule. Et je trouve que c'est important qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. On a dit tout à l'heure, la présence du Seigneur, elle est indispensable. Mais Dieu veut qu'on vive en communauté. Nos relations les uns avec les autres sont capitales, sont indispensables. Et il est heureux que le pasteur, dans l'exercice de son ministère, ne soit pas seul. Alors quand on parle de collégialité pastorale, il faut souligner au fond deux aspects un peu en tension. Je dis que c'est un privilège, mais c'est aussi un apprentissage. Et il faut qu'on en soit bien conscient. C'est un privilège, comme je l'ai déjà dit, parce que le pasteur peut compter sur le soutien, l'écoute, l'entraide, la complémentarité de ses frères et sœurs dans la foi. Et c'est important que Daniela puisse jouir de cet appui, de cette aide, de ce dialogue. C'est indispensable. Mais en même temps, c'est un apprentissage. Ce n'est pas la chose la plus facile de travailler collégialement. On a tous un peu tendance à vouloir foncer dans nos idées. Et voilà qu'il faut qu'on apprenne à fonctionner main dans la main. Et cela, c'est vraiment une grâce, mais aussi un travail, j'allais dire, un apprentissage. Et quand on dit apprentissage, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. On a besoin d'apprendre à fonctionner ensemble, à se compléter, à s'écouter. C'est un peu comme trouver la place spécifique qui revient à chaque pièce dans un puzzle. Moi, je n'en ai pas fait souvent des puzzles, mais j'ai vu des gens faire des puzzles remarquables. Et ce n'est pas évident de trouver la place de chacun. Eh bien, c'est cela à quoi on est invité aujourd'hui. C'est donner à Daniela la place qui lui revient. Et en même temps, l'accompagner, l'entourer, la compléter. Et puis, elle doit aussi apprendre cela, ce qui est pas, qui va pas de soi. Mais nous croyons que Dieu veut aider dans ce sens. Et c'est d'ailleurs le but un peu du temps de prière qui va suivre tout à l'heure. C'est que d'une part, on prie pour Daniela, pour qu'elle soit bénie dans son ministère pastoral au milieu de vous, qu'elle soit aidée dans ces différents aspects qu'on a mis en évidence. Mais je crois que c'est aussi l'occasion de prier pour les responsables de la communauté, puisqu'ils doivent marcher ensemble. Ils ont eux aussi besoin de cette grâce et de ce soutien de Dieu pour accomplir ensemble ce ministère dans l'unité, dans la capacité de donner à chacun sa place. C'est un travail et c'est une prière. Et c'est bien que l'Église tout entière prie dans ce sens. Et je dirais, il y a même une prière pour la communauté. Je me rappelle quand on m'engageait ici comme pasteur, j'ai dit aux gens, méfiez-vous. La présence d'un pasteur ne veut pas dire que vous aurez moins à faire qu'avant. Au contraire, je vais vous mettre au travail. Et dans ce sens-là, oui, nous sommes tous concernés. Nous sommes en ce jour en train de donner à Daniela sa place, mais sachez-le, vous avez votre rôle à jouer, chacun, personnellement, avec les dons qui sont les vôtres. Nous avons reçu du Seigneur des capacités pour le servir et nous sommes invités, c'est un appel que je vous adresse, à vous mobiliser pour être à côté et avec Daniela au service du Seigneur, qui est un Seigneur plein d'amour et de grâce et qui veut donner à votre communauté un véritable rayonnement par son amour manifesté dans la région. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Merci de votre écoute et de votre patience. Amen.